Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Par les temps qui courent. Tous les soirs, c'est une discussion d'une heure que nous menons avec des artistes. Ce soir, c'est Agnès Geoffrey qui est avec nous.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler,
ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec Agnès Geoffrey.
Il paraît qu'en déroulant du scotch sur une surface vitrée, on peut l'aider à résister au choc, à la percussion d'un obus, par exemple, aux déflagrations de tout genre ou à des explosions. Sur la porte d'entrée du Front Régional d'Art Contemporain en Auvergne, en ce moment, vos motifs de scotch, à vous, Agnès Geoffrey, sont un ornement qui rappelle le vitrail, mais en plus pauvre. Et c'est très bien, en fait, qu'on entre là dans une exposition consacrée à votre travail par cette installation, car il y est question, à plusieurs égards, dans cette expo, de résistance, au sens le plus politique et historique du terme, mais aussi au sens des images et des gestes qui résistent au temps, qui persistent, qui reviennent, qui hantent, autant qu'elles manquent. Des images même qui résisteraient à être complètement vues, avec des mots qui résisteraient à être facilement lus. Le commissariat de l'exposition est signé par Jean-Charles Vergne. Elle est visible jusqu'au 3 mai 2020 au FRAC Auvergne, donc. Et si ma voix tient jusqu'à la fin de l'heure, je pourrais aussi rappeler qu'on peut découvrir votre travail à travers le très beau livre qui est publié par le FRAC Auvergne et qui n'a pas de titre.
Non.
Comme l'exposition. Bonsoir, Agnès Geoffrey.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Merci. Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que c'est qu'un FRAC ?
Alors, pour les artistes, ou en tout cas, je vais parler en mon nom. J'ai vécu 10 ans à l'étranger et à mon retour en France, ça a été un vrai soutien pendant plusieurs années. Les FRAC généralement défendent à la fois les artistes locaux et nationaux par des acquisitions, des expositions et la diffusion de leur travail. Et moi, pour ma part, le FRAC Auvergne a été le premier ou une des premières institutions à défendre le travail, à l'acquérir. Et voilà, et plusieurs années après, à réaliser et faire cette exposition et montrer le travail, en fait.
Donc c'est un fonds régional d'art contemporain, il y en a plusieurs, il y en a plein, ils ont été créés par Jack Lang à l'époque. Agnès Geoffrey, vous faites quoi ? Vous vous toquez ? Bonjour le FRAC Auvergne ou le FRAC, je sais pas, je travaille, ça fait 10 ans maintenant que je suis sortie des écoles, est-ce que vous voulez bien regarder mon travail ? Comment ça se passe ?
Non, en fait, Jean-Charles Vergne avait déjà vu le travail, il avait eu des échos par différentes personnes et voilà, je pense que peut-être dès les premiers temps, le travail lui avait parlé, donc dans un premier temps il l'a suivi, et puis il y a eu une première acquisition, assez rapidement une deuxième, et voilà, et l'envie de sa part et ensuite l'envie commune de faire cette expo ensemble et ce très beau livre que vous avez cité.
Donc ça veut dire que vos œuvres, progressivement, elles rentrent dans ces fonds. Là, en fait, quand on parle d'acquisition, c'est vraiment ces endroits qui achètent vos œuvres, qui ne sont donc pas des particuliers, mais des organismes qui vont ensuite les montrer, les partager dans des expositions.
Oui, en tout cas, pour ce qui est du FRAC Auvergne, je sais qu'ils ont acquis 2 pièces, une pièce vidéo et un ensemble complet qui s'appelle Incidental Gesture de photographie. Et en fait, c'est des pièces qui circulent énormément parce qu'ils les montrent très souvent dans des expositions, en fait, en dehors du FRAC, dans le FRAC et aussi en dehors du FRAC. Donc, c'est un vrai moyen de diffuser, de faire circuler le travail. Voilà, je saurais rien dire de plus que voilà, c'est un vrai soutien aux artistes.
Bon, bah voilà, qui dit, ce sera notre petite parenthèse institutionnelle. Agnès Geoffrey, quand on pousse les portes, habituellement au FRAC, elles ne sont pas zébrées de scotch.
cette fois-ci. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cette installation, d'une part, parce que c'est l'œuvre la plus récente que vous présentez?
Oui, il y a trois, quatre nouvelles pièces. Et c'est vrai qu'en vous entendant, c'est vrai que ces scotchs à poser sur les vitrines, bon, déjà, font barrière et font filtre. C'est déjà un premier filtre avant de pénétrer dans l'espace d'exposition. Et bon, je l'ai voulu tel quel parce que je regarde beaucoup de documentaires sur Arte, j'écoute beaucoup d'émissions sur France Culture et au gré voilà de ces diverses documentations radiophoniques et télévisuelles, au détour d'un documentaire, il y a voilà, on évoquait l'usage du scotch au milieu du XXe siècle et après, et l'usage du papier, ce qu'on appelait papier gommé, au début du XXe siècle, pour protéger les vitrines ou les fenêtres des particuliers ou les vitrines des commerçants contre les déflagrations d'obus en temps de guerre ou sur des zones de conflit. Mais c'est aussi utilisé, voilà. Pour contrer les ouragans, par exemple. Et donc, à la fois, ça peut être à poser d'une façon très simple, vraiment de façon très utilitaire pour protéger, mais pendant la Première Guerre mondiale, les commerçants, en fait, ont fait preuve de créativité jusqu'à élaborer des motifs extrêmement sophistiqués et raffinés. Je m'en suis pas directement inspirée, j'ai réinventé les miens, mais voilà, il y a trois vitrines qui sont ornées comme ça de motifs géométriques.
Et vous entendez bien quand même en le disant, Agnès Geoffrey, qu'on trouve là tellement de signes qui sont déployés dans votre travail depuis des années. La question du conflit, la question de la transparence, la question du filtre, la question aussi de ce matériau. Je disais, il est pauvre parce que c'est comme ça que Jean-Charles Vergne le distingue en parlant de cette installation. Est-ce que c'est comme ça que naissent des projets dans votre tête? Voilà, vous auriez très bien pu entendre plein d'autres choses. Il se trouve, à la radio, à la télévision, vous entendez cette histoire de commerçants qui ornent leur vitrine de scotch pour la protéger des obus, et ça vous met au travail?
Disons que c'était un moment où, voilà, ça faisait écho à mon désir d'installation, à peut-être éventuellement à les associer à des images, mais finalement je ne l'ai pas fait. J'ai fait des pièces ultérieures où je scotche des photographies directement, même le mur avec du scotch, mais là c'était vraiment resté dans la défiguration, alors que dans tout mon travail il y a quasiment partout des figures.
Et là, il y en a vraiment pas. Il y a quelque chose comme ça qui non seulement présente évidemment aucun visage, mais va vers l'abstraction, parce qu'on est côté du motif, du vitrail, je disais, mais ça peut être aussi par terre, du carrelage, du sol. Enfin, on pourrait paraître très 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 loin de votre travail, et on y revient, notamment par la question de la résistance. En lisant ce mot-là, en disant ces vitres peuvent résister au choc, j'ai pensé à ces tout petits textes que vous ponctionnez comme ça, notamment dans des échanges entre résistants. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit?
Oui, c'est une série qui s'appelle Les Messagers, qui est constituée de 8 petits objets et papiers manuscrits dans une écriture quasi microscopique, qu'en fait très peu de personnes arrivent à lire. C'est des petits objets papier comme ça qui sont encadrés. En fait, j'ai collecté des fragments de résistants ou de prisonniers. Pour la plupart d'entre eux, sont issus des correspondances d'Ernest Official, qui était membre du groupe de résistance La Rose Blanche pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des étudiants allemands. Et en fait, ça a été notamment la lecture de ces correspondances qui ont amorcé mon désir de prélever tous ces fragments de texte qui ont été écrits, cachés, dissimulés à des visées de transmission dans des contextes d'oppression judiciaire, concentrationnaire, totalitaire, ou comment l'écriture est la seule possibilité de transmettre, de résister, voire d'exister quand il reste plus rien. Donc en fait, c'est des fragments comme ça où on sait pas exactement dans quel contexte ils ont été écrits, mais par exemple le premier qui a amorcé tout le travail est issu justement de la dernière phrase qu'aurait prononcé Hans Scholl au moment, juste avant son exécution, parce qu'il a été arrêté par la Gestapo. Et avant d'être exécuté et assassiné, il aurait prononcé une phrase de Goethe qui était « Contre vents et marées, savoir se maintenir ». Et donc, voilà, en fait, tous ces fragments procèdent comme ça d'une résistance face à une oppression, mais on ne sait pas de quel contexte ils émanent.
D'autant qu'évidemment, on peut entendre ce terme de résistance avec des connotations historiques assez précises, relatives par exemple à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi vraiment juste au fait que on va être très ému de retrouver un petit bout de papier qui date d'il y a 60 ans, où il y a écrit 4 mots, y compris des mots quotidiens, et c'est cette résistance au temps, cette résistance à la manière dont les choses s'abîment qui va nous émouvoir, et vous circulez entre ces deux acceptations du terme. Il y a quoi comme autre petit mot? Parce que moi, ce que je trouve aussi bouleversant, c'est que c'est pas banal quand même, ce qu'on trouve dans ces petits mots-là, Agnès Geoffrey.
Alors, vous voulez que je vous en dise quelques-uns?
Peut-être que je peux vous aider.
Oui. Alors, il y en a un qui a été extrait d'une lettre d'un poilu adressée à son amoureuse. Donc, on ne sait pas si elle lui est parvenue, qui est... Attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. « Caresse-moi, câline-moi, embrasse-moi, c'est peut-être la dernière fois. » Donc, celui-là, je l'ai écrit au crayon à papier taillé sur un bout de mouchoir en papier. Donc, à chaque fois, j'essaye de trouver aussi un support qui fait sens avec l'écrit et le contexte dans lequel il a été prélevé ou diffusé. Ou... Par exemple, il y en a un...
Celui-là, c'est quoi ?
Celui-là ? Alors, c'est un petit anneau en papier qui, normalement, insérait 3 crayons à papier. Donc c'est un tout petit objet comme ça, et à l'intérieur de l'anneau en papier j'ai écrit « Jamais il ne faut dire, ce chemin est le dernier ». Donc c'est comme une espèce de boucle comme ça qui fait chemin. Par exemple, il y a une autre ça c'est une autre phrase extraite des lettres de Sophie Scholl adressées à son frère. Je voudrais tant que tu survives à cette guerre et à cette époque sans être une créature, parce que ce qu'elle redoutait le plus, c'est que étant enrôlée dans les jeunesses hitlériennes, son frère devienne un monstre en fait. Donc cette phrase-là est écrite sur une photographie que j'ai achetée voilà au Puce, qui est une toute petite photographie qui représente en fait le glacier du Mont Blanc qui dégouline comme ça, qui est quasi informe. Donc, avec cette idée de créature informe. Il y en a un autre, par exemple, qui est écrit sur une cigarette, comme la dernière cigarette des prisonniers, et qui a été collecté sur un mur d'une prison, et qui dit « Mort aux traîtres, joie à vous ». Voilà, donc en fait, voilà, c'est ce que je vous explique. On ne sait pas exactement dans quel est le contexte précis dans lequel ils ont été écrits, mais ce qu'on pressent, ce qu'on ressent, c'est que voilà, ils font face. Voilà, c'est des écrits qui font face.
Je me suis mis à regarder le point. Une des premières constats que j'ai fait est que, enfin, je me suis aperçu que ce que je vois me cache toujours quelque chose que je ne vois pas, et que cette chose que je ne vois pas est cachée par ce que je vois. Et donc, vu comme ça, ça paraît évident, mais c'est très grave. Parce que depuis toujours, l'homme ne regarde que la moitié du monde et se contente de ne percevoir que la moitié du monde. Notre culture, nos sociétés sont faites en se contentant de la moitié de ce qui est. Tout simplement parce que notre regard est frontal. Et que ce que l'on voit nous cache toujours quelque chose que l'on ne voit pas. Donc j'ai commencé à développer des outils et des techniques pour regarder les choses entièrement. Donc par exemple, j'ai tourné autour des choses, j'ai partagé mon point de vue avec quelqu'un qui se trouvait à l'opposé du mien, et qu'à deux, on avait une meilleure idée de cette chose, au moins avec deux points de vue contraires. Et puis je me suis introduit à l'intérieur des choses avec un regard explosif, donc le regard de l'imaginaire, le regard du ressenti, devenir les choses, la chose.
C'est la voix de Joanne Le Guilherme dans Par les temps qui courent en 2017, qui parle de l'invisible et du visible, et qu'il y a toujours une part des choses visibles qui nous échappent, Agnès Geoffrey. Si on essaye de prendre comme ça pendant un temps en tout cas, votre travail dans sa globalité, enfin, on va essayer de donner à entendre les diversités de formes que ça peut prendre, mais vous diriez que vous avez quoi comme rapport avec ce qu'on voit?
Je dirais que, si je reprends ou si j'ai bien entendu ce qu'il énonçait, il y a cette idée de regard à moitié. Peut-être qu'il l'a pas formulé comme ça, mais j'aime assez cette idée, en fait. Moi, je parlerais de regard filtré, mais qui rejoint cette idée de regard à moitié, c'est-à-dire que nous, en tant que regardeurs, il y a une participation active aussi à reconstruire, à scruter, à fouiller dans le réel, dans les images, à la fois dans notre position en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, mais aussi dans la position du regardeur. Et en tout cas, moi, dans ma position d'artiste, ce que j'aime, c'est à filtrer les images, soit par association, soit par retouche, soit comme ma dernière série, Les Captives, où j'emprisonne des images dans des boîtes en verre qui les déforment, qui les opacifient, qui... Il y a toujours comme cette vitrine scotchée dont on parlait au début, il y a toujours une forme de filtre qui s'opère face aux images.
Parce que vous vous en méfiez ou parce que au contraire vous voulez agir dessus?
Non, c'est pas de la méfiance, c'est de les amener à les repenser, de créer une distance pour c'est cette idée de porter attention aux images justement parce qu'elles ne se révèlent pas entièrement.
Et jamais, en fait.
En tout cas, dans mon travail, j'espère jamais entièrement.
On peut parler peut-être de la manière dont vous agissez dessus, Agnès Geoffrey. On évoquait une des séries totalement acquises par le Frac Auvergne, cette série qui s'appelle Incidental Gestures. Comment est-ce que vous intervenez sur ces images? Comment nous, on a trace de ces interventions? Quelles sont ces images? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette série-là?
Oui. Alors déjà, pour resituer un peu la genèse, c'est un projet que j'ai commencé à la fois quand c'était un moment où je m'intéressais aux images de propagande sous les différents régimes totalitaires ou comment la photographie était un instrument de falsification, comment on effaçait certains protagonistes de l'histoire, et au même moment dans mes archives personnelles, et ça a été un moment assez merveilleux en même temps dans mes archives personnelles, je retrouvais une photographie qui figurait ma grand-mère avec ses parents et mon trisaïeul. Et mon trisaïeul, c'est une photo qui date autour de 1902-1905, et en fait mon trisaïeul a été rajouté post-mortem. Donc c'était un double mouvement comme ça, à la fois d'effacement dans ces photographies de propagande et à la fois dans cette archive intime comme ça de révélation, réapposition d'une figure décédée.
Et qu'est-ce qui avait fait ça?
Le photographe, mais ça, voilà. Bon, on sait depuis les débuts de la photographie a été retouchée, trafiquée, falsifiée dès les toutes. C'est un acquis depuis le début. Donc, il n'y a pas de vérité photographique de toute façon. Mais d'ailleurs, le travail d'Incidental Gestures pose pas tant cette question de la vérité, mais au contraire de vouloir contrarier la perte. À la fois de contrarier la perte et à la fois de faire basculer une image dans une autre réalité. Donc en fait, j'ai à la fois travaillé sur des images douloureuses comme ça, avec des qui ont vraiment un tenant historique fort.
Par exemple,
une femme noire lynchée au moment de la ségrégation aux États-Unis, une femme exhibée nue, les cheveux coupés courts au moment de la libération, à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale.
En France.
Une gueule cassée, que j'ai retouché. Mais face à ces images qui relèvent d'une mémoire douloureuse, j'interviens aussi sur des images ordinaires, banales, que j'ai glanées voilà, au gré de mes recherches aux puces ou chez des revendeurs d'images anonymes. Et, mais quand j'ai acheté ces images a priori ordinaires, je les ai achetées parce qu'elles m'ont appelée, elles m'ont interpellée, parce que je pressentais que cette image, une fois retouchée, j'allais pouvoir mettre en évidence une violence souterraine qui était déjà là dans l'image, en fait.
Contrairement à ce que vous pouviez faire ou à poser comme geste sur les autres images, par exemple, parce que vous n'avez pas dit comment vous agissiez, mais cette femme noire pendue pendant la ségrégation aux États-Unis, d'un seul coup, elle semble voler, parce que vous effacez sa corde. Mm-hmm. Cette femme nue, exhibée dans la foule, les cheveux pas tondus encore, mais très raccourcis, mm-hmm. à la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, vous l'habillez. Donc il y a quelque chose qui soulage, il y a quelque chose qui répare. Et dans les autres séries, au contraire, il y a quelque chose que vous venez inquiéter davantage, que vous venez tendre.
Oui, exactement. En fait, le geste de retouche est soit un geste d'apaisement ou d'attention face à ces images, voilà, ces représentations victimaires. C'est aussi les sortir un tant soit peu, parce qu'on ressent toujours le contexte, même une fois retouché, les sortir un minima pour un temps de leur état victimaire. Et pour les autres, au contraire, exactement ce que vous disiez, recréer un état de tension qui était déjà immanente à l'image, mais qui demandait juste à être révélé par la retouche photographique.
Parce qu'il y a quand même un art de la précision, c'est-à-dire que si on n'avait pas eu les deux photographies, par exemple, je pense à cette femme exhibée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, si on avait eu que la photo en robe, on n'aurait pas du tout su que c'était une femme qui était comme ça exhibée en traître. Donc on imagine qu'il y a quelque chose de très 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 minutieux que vous travaillez pour rendre votre intervention quasiment invisible. Ça se passe comment concrètement, Agnès Geoffrey?
Pour cette série-là,
ouais.
Bah, disons que cette série, évidemment, elle m'a questionnée longtemps, parce qu'elle pose vraiment des questions éthiques aussi face aux images. Mais que ce soit la femme lynchée, elle existe, l'image retouchée existe seule, parce qu'on pressent très bien le contexte dans lequel elle a
été. Et on reconstruit très vite, en fait.
Voilà, exactement. Et pour la femme à la libération, même si moi je reconnaissais tous ces points de tension dans l'image, parce que voilà, elle est quand même prise dans une foule d'hommes avec les poignets maintenus, mais en effet, si j'avais montré cette image juste avec cette femme revêtue, on aurait pu penser que c'est une scène de liesse au moment. Donc c'était comme pour La Gueule cassée, pour ces deux diptyques-là, il était nécessaire de remontrer l'image source pour recontextualiser les images. Simplement, quand je les expose, je les mets jamais côte à côte. Parce qu'il y a cette idée comme ça d'une image qui travaille dans notre déambulation dans l'espace. On croit l'avoir vue et en fait c'est pas la même. Et donc il y a cette idée comme ça de latence aussi dans l'image qui agit au sein même du parcours, en fait.
Absolument, et c'est peut-être la troisième manière d'entendre ce mot résistance que je plaçais en début de conversation. Résistance aussi comme des choses qui persistent, des images qui sont persistantes, qui s'impriment comme ça en nous, qu'on ne sait même pas avoir tellement vu, et puis on est tellement heurté par une deuxième image que ça révèle la première. Vous diriez que vous fonctionnez comme ça, par effet de sidération face aux images?
Alors, non, moi je parlerai pas de sidération. Et j'espère que justement que c'est pas de la sidération. J'espère que ça agit. Et pas que ça nous arrête. Je dis souvent que ça engage des images évocatoires. Donc, dans beaucoup de pans de mon travail, des images qui appellent d'autres images. Donc justement, qui sont dans une forme de continuité, de recirculation des images, dans cette dimension du déjà-vu, soit de notre propre vécu, soit dans une une histoire collective, une histoire culturelle, une histoire... mais c'est comment une image en amène toujours une autre. Donc je parlerais...
À l'inverse de quelque chose qui nous figerait, en fait.
Oui. Et je crois que d'ailleurs, la puissance des images réside exactement là. C'est-à-dire dans la capacité à appeler d'autres images et nous, en tant que regardeurs, de ne pas être prisonniers des images, justement. De pouvoir, et là encore, c'est ce que j'évoquais plus haut, de pouvoir les repenser parce que elles font appel à d'autres référents, à d'autres qui peuvent être multiples et variés, mais... en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime dans mon travail, c'est le pouvoir évocatoire des images.
Et leur mise en réseau, en fait.
Oui. Et vous parliez de résistance. C'est vrai que moi, longtemps et encore aujourd'hui, j'utilise le terme de latence, comme ça, quelque chose qui travaille parfois de façon souterraine, parfois dans un laps de temps très long, mais voilà cette question d'image latente, je dirais qu'elle survole tout mon travail.
Moi, je me dis, mais bon, alors à ce moment-là, on peut dire effectivement, bon, bah, s'il y a plus que des images, ça veut dire qu'il y a plus d'autres de l'image, ça veut dire qu'il y a plus d'images. Bon, ça, bon, c'est logique, une certaine logique, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on dit quand on parle de cet autre, qu'est-ce que c'est que cet autre de l'image? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours à la fois que l'image soit une présence, et en même temps que cette présence soit la présence d'une transcendance, quoi? Pourquoi donc, au fond, y a-t-il toujours ces modèles si fortement théologiques, notre pensée de l'image? Je crois que précisément une image est toujours un écart, une dissemblance, une opération, et donc une image contient toujours de l'absence, quoi. Et au fond, la question est de savoir qu'est-ce que c'est que cette absence que contient l'image, quoi.
France Culture par les temps qui courent, Marie Richeux avec Agnès Geoffrey.
Qu'est-ce que c'est que cette absence que contient l'image, disait Jacques Rancière dans cette archive de 2003, juste avant la musique de Vincent Courtois. C'est d'ailleurs un morceau qui est sorti d'un album qui s'appelle Medium, et moi j'ai ouvert juste devant moi ce détail d'une photographie qui est assez emblématique d'une de vos séries, Agnès Geoffrey. Qu'est-ce que c'est que cette absence? On pourrait vraiment lui montrer la photo à Jacques Rancière en la décrivant. Pour le moment, est-ce que vous voulez bien le faire?
Alors, ce que vous regardez exactement, c'est le fragment, le détail d'une image qui représente une vieille femme qui maintient les avant-bras d'une petite fille d'une dizaine d'années, qui a, cette petite fille a les mains tendues comme si elle allait prendre quelque chose autour d'une, au-dessus d'une table. Simplement, l'espace entre ses mains est vide. Et ce qui, en fait, ce qu'on retrouve beaucoup dans mon travail, c'est la question de, des postures, des gestes et l'ambivalence des postures. Et là, ce qui m'intéressait de mettre en scène, c'est à la fois une adulte et un enfant. À la fois, ça, ce geste procède d'un geste de, d'instruction, d'attention, mais aussi d'oppression, parce que les poignets sont maintenus. Et elle la guide, mais en même temps, potentiellement, il y a...
Elle la contraint.
Elle la contraint. Et est-ce que voilà le détail que vous avez choisi au-delà de cette ces deux figures dans le mur, on voit une espèce de troisième figure qui apparaît fantomatique comme ça, un peu comme un test de Rorschach qui apparaît dans les lambris ou les faux lambris du mur. Voilà, comme une figure qui émergerait, mais qu'on dans la totalité de l'image, on peut très bien passer à côté.
Ou pas, quand même. Ou pas. Elle est assez, c'est vrai que c'est le bois qui est juste à côté de ces deux figures humaines et je me, oui. Dans un premier temps, je suis passée à côté, puis après, je pouvais plus du tout, et puis c'était même très, très, très effrayant. Alors, je sais pas si c'est le cartel, enfin, quelque chose qui nous renseigne, en tout cas, sur le fait qu'elles sont, peut-être en train de faire du spiritisme, ou quelque chose qui nous dit qu'il y a, il y a de la magie, en tout cas, il y a de l'initiation. Et d'un seul coup, l'absence dans cette photographie, ou le vide entre les mains de la petite fille, Anaïs Geoffrey, se teinte pour nous. Mais d'une certaine manière, l'absence, ou le trou, comme ça, ou même l'absence de la corde de la femme dont on parlé tout à l'heure, et quelque chose avec lequel vous travaillez beaucoup, c'est une absence qui pour vous est toujours révélatrice de quelque chose, qui appelle, comme vous le disiez tout à l'heure.
Je crois que plus qu'absence, je parlerais de manque. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un manque dans l'image qui fait qu'on peut s'y engouffrer, on peut la réinventer. Et par exemple, pour cette photo-là, j'ai pas forcément pensé à une scène de Spirit. Je m'arrêtais à. En fait, je me suis inspirée d'une scène de film, voilà, qui est dans un contexte complètement différent. Donc, en fait, j'ai redéplacé le contexte en isolant ce geste, ce simple geste. Qui du coup devient ambivalent, ambigu, et que on peut en effet repenser de façon multiple parce que il n'est attaché à rien, mais justement il procède du manque de l'objet, ce que vous évoquez.
Et vous diriez que c'est un manque qui est plutôt du coup fertile en fait, fertile à nos projections, à nos fantasmagories, à notre langage, parce qu'on sait exactement ce qu'on est en train de faire, que c'est en fait une sorte d'appel.
Oui, tout à fait. Oui. À la fois, c'est un double mouvement comme ça, à la fois du manque et de la révélation, quoi. Le manque révèle.
Et ça, vous voyez que des images, parce que vous les choisissez, ces images-là, en l'occurrence, ça, c'est des images qui sont préexistantes, que vous ne faites pas vous-même dans un premier temps.
Si.
Celle-ci, ah oui.
En fait, la plupart du temps, on croit que je récupère
on sait
toutes
pas.
Les images.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais celle-ci, oui.
Oui, toute la série de métamorphoses. Mais disons que je retravaille tellement les images, je rajoute du faux grain, je les passe en noir et blanc pour rejouer la dimension intemporelle de l'image.
Oui, moi je me suis complètement fait avoir.
Et en fait, la plupart du temps, mais peu importe, parce que en fait, voilà, que ce soit des images vernaculaires que je remanipule, je repense, ou mes propres images, finalement, ce n'est qu'une circulation d'images.
Vous ne prêtez pas beaucoup d'intention au fait d'être oui ou non la personne qui prend la photo, quoi.
En fait, j'aime à construire des images et j'aime aussi à jouer avec des images préexistantes, à les réoffrir au regard. Et donc... Par contre, si on croit que toutes mes images sont récupérées, oui, là, ça me gêne, mais parce que c'est pas le cas. En fait, c'est quasiment la moitié du travail. Le travail de mise en scène et le travail de réactivation et voilà, est égal.
Et égal.
Fait.
Je pense que le trauma, c'est quelque chose de plus percutant d'une certaine façon, c'est-à-dire, enfin bon, c'est effectivement une situation où la capacité à s'adresser à autrui semble pulvérisée par le choc, la capacité de se représenter soi-même et de représenter la situation dans laquelle on est plongé se dissout totalement sous l'effet de ce choc. C'est bien évidemment plus que simplement être bouleversé ou être conduit aux limites de ce qu'on peut se représenter soi-même et aux limites de notre capacité à nous sentir humains s'adressant à d'autres humains.
Il est peut-être maudit, qui sait. Il est interdit de l'enterrer ici. Il est impossible. Il est égoïste. Il est interdit d'allumer le feu dans le ventre d'un dieu qui dort. Il est défendu de cracher des clous à l'autel du chaudou. Il est très mal vu de brûler vive et nue. Il a le goût de l'incendie, ce fruit. Il est interdit. Il est délicieux. Oui, mais...
La voix de Catherine Herschlet, avec cette chanson qui s'appelle La Chute. Avant quoi, il y avait Annie Franck, psychanalyste, dans une archive de l'art et la matière, l'émission de Jean Deloisy sur France Culture, qui parlait du trauma comme une manière d'arriver aux limites de ce qu'on peut représenter, une façon d'être comme ça, de pulvériser la capacité de la représentation et du regard. Et tout à l'heure, vous disiez, Anna Geoffrey, moi, mon travail n'a pas à voir avec la sidération. Je ne veux pas qu'on soit figé, je ne veux pas qu'on s'arrête devant des images. Et pourtant, il y a quelque chose de la violence de cette sidération première, ou qui est peut-être plus ancienne et qui n'a pas à voir avec votre travail, qui existe. Alors, je ne sais pas si c'est une violence qu'on peut dire traumatique, mais c'est une violence qui est sourde dans l'absolue totalité de votre travail. Vous diriez que, de manière générale, vous entretenez quoi comme rapport avec une sorte de fond violent, quoi, un peu?
Alors, plutôt que de fond violent, je parlerais de peurs archaïques qui ont vraiment fondé le travail et qui, voilà, au fil des années, ont pu prendre des directions plus prégnantes en interrogeant en effet là des violences manifestes, dures, horribles. Au fur et à mesure que j'allais vers les représentations victimaires, mais voilà, je dirais que c'est une oscillation comme ça entre les peurs d'enfance jusqu'aux peurs les plus indicibles, quoi, ou aux souffrances les plus indicibles. C'est comme... Mais ça s'est fait au filtre.
Et surtout, il n'est pas question de les mettre en lien direct à aucun moment dans votre travail. La question n'est pas de les mettre ni sur un lien direct, ni à égalité. C'est juste qu'il y a des circulations comme ça.
Oui, il y a des circulations, il y a des ce que j'appelle des résonances, par exemple dans le film Suture qui appartient à la collection du Frac Auvergne. C'est à chaque fois deux images comme ça, à la fois issues de collectes d'images que je réalise, à la fois issues de mes propres mises en scène, à la fois issues d'images que j'ai pu collecter et remanipuler, qui existent sous différents registres, voilà, de presse, cinématographique, personnel, et comment elles se juxtaposent, elles se superposent. Donc, si parfois je les fais coexister entre elles, mais elles rebasculent vers presque une troisième image, ou des images intermédiaires, comme ça.
Il y a une salle dans l'exposition qui est consacrée à votre travail au Frac Auvergne en ce moment, où on peut voir ce film Suture.
Oui.
Et alors, pour dire, c'est un grand écran noir, comme ça, et où apparaissent en effet deux photographies, mais d'abord une, et puis très, très, très lentement, par au-dessus ou par en dessous, ça dépend comment on veut voir les choses, une des photographies vient comme transpirer sur l'autre, et l'autre s'en va, et il y a des choses qui nous apparaissent au contact des deux, dans la disparition et l'apparition de l'autre, et qui sont, on entendait une psychanalyste parler du trauma, mais tout à l'heure vous faisiez aussi référence au Rorschach, qui sont des taches d'encre incitant à l'association libre et à la parole et au récit. Et là, on peut dire que presque c'est la même chose avec la suture de ces images, Agnès Geoffrey.
Oui, toutes ces images mises ensemble, c'est comment elles agissent par le détail. Comment il y a jonction par un détail issue à chaque fois de ces deux images qui sont mises ensemble.
Quand vous parlez, juste pour illustrer pour les personnes qui nous écoutent, je pense à une lune, je crois.
Oui. Une éclipse.
Donc ça fait un rond cercle noir parfait entouré de lumière et qui devient d'un seul coup l'œil d'une créature.
Oui.
C'est ça. Hein,
oui.
Bon voilà, ça peut. Je sais pas si ça donne. Si vous imaginez derrière la vitre et derrière le poste. Mais je vous ai coupé, je voulais juste qu'on puisse avoir une idée un peu
plus.
Oui,
oui, voilà, mais à la fois, ça irait presque à l'encontre de ce que je pourrais imaginer du trauma qui est. Je lis assez peu de psychanalyse, même si je pense que dans mon travail, il peut y avoir plusieurs entrées. Mais pour moi, ça serait une rupture, une violence telle qu'elle crée un trop voir qui procède d'une rupture et d'un vide, bon, qui est comblé souvent par le corps d'ailleurs. Et c'est là où ça m'intéresse aussi quand je parlais du geste ou des postures, c'est cette question des corps occupés ou des corps occupés par des failles, des traumas, par d'autres images, par cette idée au pire de corps contraint, au mieux de corps hospitalier.
Et le temps de l'image, c'est aussi le temps pour réfléchir sur la même image. Parce que nous avons changé, nous avons renversé les significations originaires, nous avons enlevé toujours les intertitres qui accompagnaient ces images, qui souvent étaient des images et de propagande. Une propagande qui revisitait les images.
Paris, le 1er novembre 2019. cher vous. Il fait gris aujourd'hui, un gris très clair, presque blanc, et lumineux mais d'une lumière sale, d'hiver, arrivant. Et je cherche depuis ce matin mon chemin entre les mots et les images d'Agnès Geoffrey, dans cette menace qui sourd des images comme des mots qui s'accordent au temps de ce jour. Son travail relève du régime du signe. Images photographiques ou textes. Dans ces mots, il n'y a plus d'images, mais il n'y a que ça. Les mots ne viennent pas les remplacer, non, ils en sont parfois la trace physique, parfois le spectre. Elle prend le risque de la mémoire. Le langage est chez cet artiste une matière volatile ou imperceptible, ou molle, ou dure, ou miroitante. Je peux vous avouer cette chose. Je crois que les mots sont des revenants, que les autres, de tous les temps, viennent nous hanter par les mots, depuis les livres, depuis les lettres ou depuis nos souvenirs, mais aussi que tous les mots sont pleins de tous ceux qui les ont prononcés ou tracés, qui les ont usés, et que ça nous hante et nous habite, mais nous nourrit aussi, à travers des images et des formes. Il fait sombre à présent et dans le silence de la nuit qui avance, je me souviens du vertige des mots, du manque qui nous attache à eux, ces mots qui donnent vie aux images et ouvrent le regard, et que montre si intensément le travail d'Agnès Geoffrey. Et je vous les adresse, par-delà la distance. C'est Libon. C'est qui, Sally Bonne ?
Sally Bonne, c'est une philosophe, critique et docteur, enseignante à l'université d'Amiens. Elle suit mon travail depuis longtemps et voilà, elle a posé son très beau regard et ses très beaux mots sur mon travail là, principalement mon travail textuel, qui est souvent oublié.
Parlons-en justement.
Ouais, et qui, voilà, pour moi, relève autant de mon travail photographique, qui questionne de la même façon ses états sous influence, ses résistances, comme elle l'évoque, même si le travail, voilà, a pris des nouvelles directions, mais en tout cas je perds jamais la question de l'image dans mon travail d'écriture ou dans mon travail textuel, parce que comme les photographies, c'est soit j'écris mes propres mots, soit j'en réactive d'autres, d'autres personnes, d'autres, voilà.
Quand vous dites je n'oublie jamais l'image, même quand je suis plutôt du côté textuel de mon travail, ça veut dire que pour vous, les mots, le langage sont des spectres, pour reprendre,
oui, ou
sont des images aussi qui avancent comme les autres ?
Disons que je les pense comme des images mentales, en fait. C'est-à-dire comment les mots convoquent les images. Voilà. Donc, par ce biais-là, je le penserais comme ça.
On a parlé tout à l'heure des mots qui sont imprimés sur des tout petits objets, qui sont des mots voués à ne pas être lus, ou par très peu, ou en secret, des mots d'amour, des mots de résistance, des mots comme ça à travers le temps. On peut aussi parler de ces mots qui sont cloués ou épinglés au mur, et qui, malgré cet acte-là, qui pourrait paraître comme ça un peu vif, on va dire, sont évanescents. C'est vraiment des mots qui apparaissent et disparaissent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail-là ?
Oui, c'est une installation qui s'appelle Palimpseste, que j'ai amorcée suite à la lecture d'un ouvrage de Michel Borowitz, qui était un résistant polonais et qui avait été interné dans des camps d'extermination. et qui avait écrit une thèse qui s'appelait Écrit des condamnés à mort sous l'occupation nazie. C'est un ouvrage en fait voilà qui s'attache à relever, mettre en avant tous ces écrits, ce que je disais tout à l'heure, tous ces écrits voilà de résistants, de prisonniers. Mais dans cet ouvrage-là, il y a un court chapitre qui est consacré au langage des bourreaux, ou comment tout le langage bureaucratique, administratif sous les régimes totalitaires était un langage de dissimulation. Et par exemple, comment dans les courriers, les papiers bureaucratiques, tous les termes exterminer, massacrer, tuer, abattre, étaient remplacés par d'autres termes, un autre vocabulaire comme partir, décommander, annuler, vider, parfois même des termes très littéraires comme envoler, évanouir, éteindre. Donc l'installation consiste à écrire tous ces mots avec des aiguilles, donc qui est un objet à la fois délicat, fragile, mais qui fait mal. Et pour les mots, le nouveau vocabulaire est écrit avec ces aiguilles, ces épingles, et les mots d'origine, donc les plus violents, abattre. En fait, là, j'ai enlevé les aiguilles hein, et il ne reste que les trous. Donc ça existe comme des mots fantômes, comme ça. Tout ça est sur un mur blanc.
Je vis la nuit et je photographie la nuit. Les rares photos du matin sont toujours des photos où je suis au bout de la nuit. Et je crois que je n'ai jamais réussi à me lever le matin pour faire une image. Ce que je voulais des autres, c'était la chair, le... En même temps, on ne peut jamais vraiment être à travers les autres. Et en même temps, c'est une contradiction, mais c'est aussi c'est comme ça que je suis aussi, à travers toutes ces fausses histoires. Parce que ce qu'on photographie, ce n'est jamais ce qui est. Et c'est d'être et de photographier à la fois. C'est la jonction d'une réalité donnée et de l'acte de l'enregistrer. Connaît ce que on peut appeler la fiction ou la création ou l'art, enfin, quel que soit le nom qu'on veut lui donner.
C'est la voix du photographe Antoine Dagata en 2003 dans l'émission Surpris par la nuit sur France Culture, qui dit qu'il n'a jamais pu se lever pour faire une photographie et que tout son art de photographie avait à voir avec la nuit. Juste pour terminer sur une note d'obscurité ou de lumière dans l'obscurité. Agnès Geoffrey fait référence à une série d'images où on ne sait plus si on voit très très bien ou si on voit très très mal. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces images-là, des images nocturnes?
Oui. Alors c'est une des séries les plus anciennes présentées au FRAC Auvergne. Qui en fait a été un peu un des moteurs de tout le travail qui a suivi. Cette série est vraiment un marqueur en fait, parce qu'à la fois elle opérait cette question du filtre que je décrivais auparavant, à savoir comment l'utilisation d'une night shot propre à certaines caméras vidéo ou certaines
qui est un moyen technique de pouvoir filmer dans l'obscurité totale.
Voilà, exactement. Avec cette particularité que le centre de la scène est comme dans un halo, comme une présence auratique comme ça des sujets, que les coins de l'image sont dans l'obscurité la plus complète, et cet effet un peu étrange comme ça dont je me suis rendu compte évidemment une fois les images tirées, où en fait la lumière, c'est comme si les corps étaient évanescents et leur rétine opalescente, c'est comme si les corps envoyaient leur propre lumière intérieure. Et ça agit comme ça sur d'autant plus la question scopique, le fait de regarder et d'être regardé. Donc voilà, c'est comme des apparitions dans la nuit, alors que c'est des scènes assez, là encore, assez ordinaires, mais qui, le fait d'être filtré, d'être incertaine, comme des images mentales, là encore, rejoint nos peurs les plus archaïques, les plus enfantines, les plus primaires.
Ben voilà, on a commencé par la pièce la plus récente et on a été vers une des pièces les plus anciennes. Merci beaucoup, Agnès Geoffrey. On peut voir ce travail au FRAC Auvergne en ce moment et se procurer ce très beau livre publié aussi par le Fonds Régional d'Art Contemporain. C'est jusqu'au 3 mai 2020.
Women of the world, take over. Because if you don't, the world will come to an end, and we haven't got long. Women of the world, take over. Because if you don't, the world will come to an end.
À la prise de son, c'était Marie le peintre. À la réalisation, c'était Lise Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre, Marianne Chassor et Julie Ascal. C'est aussi une page sur franceculture.fr et un podcast auquel s'abonner via l'application Radio France. Dans un instant, c'est le journal de 22h sur France Culture. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Because if you don't, the world will come to an end, and we haven't got long. Women of the world, take over. Because if you don't, the world will come to an end, and we haven't got long. Women of the world, take over. Because if you don't, haven't got long. Men have had their shot, and look at where we've got. Women of the world, take over. Because if you don't, the world will come to an end, and we haven't got long. Because if you don't